Ça rime à quoi ? Ça rime à quoi en compagnie d'Habiba Janine. Habiba Janine, votre nom évoque d'abord la documentariste que vous êtes dans un pays sans cinéma, comme vous avez pu le dire à propos de l'Algérie. On ne peut pas ne pas citer votre premier film, Lettre à ma sœur, puisque dédié à la mémoire de votre sœur Nabila, assassinée par des islamistes, parce que féministe, il y a 20 ans. Depuis, vous avez beaucoup œuvré pour le cinéma documentaire, mais aussi publié deux recueils de poésie. Voici le second, qui je l'espère sera seulement un deuxième, Fragment de la maison, qui paraît aujourd'hui en France aux éditions Bruno Doucet. Ce titre-là n'est pas du tout métaphorique.
Il l'est, en même temps, il a plusieurs sens, voilà. Donc du coup, je trouve que c'est un titre qui ressemble bien à tout le contenu du recueil, parce qu'il a la maison c'est au sens vraiment très large. C'est-à-dire qu'en fait, la maison est constituée de plusieurs fragments des autres maisons.
Voilà. Et ce pluriel-là, c'est une façon aussi un peu kaléidoscopique de voir le monde qui vous entoure.
Exact. C'est-à-dire que je ne me contente pas de l'espace où je vis, je suis toujours à la recherche des autres espaces. Et parfois, il y a des espaces qui ont disparu, et des maisons qui ont disparu, ou des fragments de maisons qui ont disparu. Et avec ça, avec cette disparition, je reconstruis quelque chose qui est vivant.
Et cependant, pour la femme que vous êtes, mettre le mot « maison » en titre, ça signifie beaucoup aussi.
Ouais. Je pense que dans le mot « maison », il y a la notion de construction. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un besoin très fort en Algérie, pour moi et pour beaucoup de gens, de reconstruire des choses.
Vous citez Alhadj, dès l'ouverture, ce mystique errant du Xe siècle, dans une traduction qui nous rend le persan infiniment proche. Et c'est l'ivresse, puis le dégrisement, puis le désir et l'approche, puis la jonction, puis la joie. Et c'est l'étreinte, puis la détente, puis la disparition et la séparation, puis l'union, puis la calcination. Ce rythme-là, d'une dualité tantôt en guerre, tantôt réconciliée, et d'une temporalité aussi plutôt compliquée, c'est aussi celui de vos poèmes, Habiba Janine.
Oui, c'est une recherche en fait, dans ce que je retrouve chez Al-Hallaj, quelque chose justement de l'ordre de l'intemporalité, mais aussi d'une passion. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette passion qui brûle, tout ce qui nous arrive quelque part nous brûle, c'est pour ça qu'on a envie de changer les choses autour de nous, ou alors de peut-être pas toujours les changer, mais en tout cas se les approprier et mieux vivre avec.
Qu'est-ce qu'il représente pour vous aujourd'hui, ce mystique-là, plutôt martyr et que l'on cite encore plus de 10 siècles après?
Parce que je trouve que Al-Hallaj, il est fou de Dieu dans le bon sens du terme. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va comprendre la notion de Dieu au sens univers. Celle du terme, mais surtout dans l'univers entier, et qui construit quelque chose qui est de l'ordre de l'illimité. Hallaj va aller, va voyager, va errer dans plusieurs villes, donc en Inde, en Perse et en Turquie, pour pouvoir, enfin, ce qui aujourd'hui la Turquie, avant c'était autre chose, il va aller voyager pour apporter une parole, une sorte de... Il interroge autrement donc le texte coranique, mais en s'appropriant son côté poétique, très poétique, et il va s'identifier à Dieu. J'aime bien la notion qu'il a de créateur, et aussi de quelqu'un qui est peut-être annonciateur de choses qui vont arriver. Parce qu'il va aller chercher, il va aller pousser les limites de ses contemporains, des citoyens avec qui il vit, voilà. Donc il va aller pousser les choses à leurs limites jusqu'à provoquer sa propre mort, jusqu'à provoquer sa condamnation, et jusqu'à ce qu'il soit décapité à la fin de sa vie. Donc c'est une fin triste, mais avant cette fin triste, il y a une passion brûlante.
Et qui vous a transmis cette passion-là ?
Beaucoup de choses. D'abord, une terre. Moi, je suis très attachée à la terre algérienne, parce que je trouve que c'est une terre de passion. C'est une terre multiple. Il y a plusieurs cultures qui la traversent. Et dans cette multitude de cultures qui la traversent, on nous transmet par ce désir permanent de liberté une passion. C'est quelque chose de permanent. C'est-à-dire qu'au fait, pour moi en tout cas, vivre sur la terre algérienne, c'est en permanence réinterroger les passions. Et les vivre profondément. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où on se sent... même si c'est un pays qui peut provoquer beaucoup de désespérance, qui peut provoquer beaucoup de doutes, qui peut provoquer des choses un peu douloureuses, qui provoque de fait des choses douloureuses. Moi, dans mon rapport à cette terre, quand je traverse l'Algérie, parce que je me déplace beaucoup, j'ai une vie semi-nomade, on va dire. J'ai envie de vivre de cette manière parce que ça continue à me procurer de la patience, ça continue. Mon regard se renouvelle en permanence. Je reste pas sur des choses difficiles parce qu'effectivement, c'est un pays où on peut très facilement s'engluer dans des difficultés et dans une sorte de tétanie.
Être poète pour une femme en Algérie, c'est chose facile ?
En tout cas, pour moi, oui, c'est facile.
Ça existe ?
Oui, ça existe partout. Je veux dire que la poésie est partout. La poésie n'est pas forcément dans l'édition, n'est pas forcément dans la chanson. Elle est partout, elle est dans la vie quotidienne des gens. Elle est aussi dans l'espace urbain, elle est dans le désert, elle est partout. Et je pense que la poésie est là où on l'attend le moins aussi. Parce que, quand je vous disais tout à l'heure, j'ai appris la poésie au départ, avant l'âge de 13 ans, par mes tantes, ma grand-mère, par des femmes, oui, par des femmes au départ. Et aussi un regard poétique des hommes. Après, je ne sais pas si c'est votre question, peut-être sous-tend la question sociale. Est-ce que c'est socialement facile d'être une femme poète en Algérie ? La question, pour moi, ne se pose pas. Je suis comme ça et c'est tout, voilà. La poésie est essentielle pour moi et elle a toujours existé en moi. Et je ne me pose pas la question si c'est facile ou pas facile. À partir du moment où ça vient à moi, où j'ai une envie d'écrire, je le fais. Et même si parfois j'écris aussi sans penser à éditer. Très longtemps j'ai écrit sans même penser à éditer. Et c'est la rencontre avec les autres qui fait qu'on édite finalement. C'est vraiment des moments de vraies rencontres qui nous permettent de passer à l'édition. L'éditeur permet nous offre cette possibilité de sortir un peu de notre rapport intime à l'écriture. Lointain et si proche. Elle regarde sa peau, ses yeux. Elle questionne ses mains, sa bouche. Imprime en elle les temps immémoriaux, quand la bougie était allumée, témoin et compagne. La plaie reste lointaine ce soir, c'est la nuit d'amour qui chasse les démons, telle la tempête, et ravive la flamme. La plaie oublie la douleur. Elle écoute le souffle envahir sa chair, boit sa sueur, caresse son âme, tâte le temps qui s'éloigne d'eux, lui se bat, se débat et s'apaise. Elle regarde le monde se fixer au mur. Elle crie, gémit, s'effondre et s'éloigne. Irréel, ses yeux cherchent l'obscurité. Les quêtes se multiplient et s'éteignent. Encore une fois, tout se referme. Comment peut-elle aimer lorsqu'elle n'a pris qu'à mourir ? Plus tard, elle se réveille de l'oubli. Son corps s'imprime de ses songes. Ses sens se plaignent de son départ. Le temps revient captif. Dans l'arène qu'elle a construite, elle ignore sa prison. Ses ancêtres lui chuchotent le carrefour de la déraison. Absent de ses terres, il pense l'aimer. Il ajoute au mot sa douceur et s'en va refleurir ailleurs, là où le temps appartient aux gens. En elle continuent les chants de l'adieu, comme si les départs ne finissaient jamais. Ses frissons se prolongent dans la nuit silencieuse. L'avenir ne compte plus, le présent le tue. Elle regarde les dunes immenses. L'ocre de l'océan de sable transforme le monde. Elle aime ces mots qui s'égrènent et ces terres qui lui parlent. Elle s'allonge le temps d'un soupir, fomente une stratégie pour comprendre. Son histoire ne lui appartient plus. Elle entre dans l'éternité des hommes. Sur le sens magique qu'elle donne aux mots, elle réinvente sa colère, sa fureur, ses sanglots. La tempête fait rage dans son âme fébrile. Lui boit ses larmes et laisse le vent l'envahir. La parcelle dédiée au père disparaît. Soudain, sur son corps apparaît un chemin. Le destin se mêle et la maison s'engloutit. Tout se fissure, les murs, les âmes, l'avenir. Comme un obus qui explose, la terre retourne à la terre. Le ciel boit la mer et l'univers s'allume à nouveau.
Quel est ce sens magique que vous donnez au mot Habiba Janine ? D'ailleurs, vous avez remplacé, c'est assez troublant, le mot « temps » par le mot « mot ». Les mots reviennent plus souvent dans votre langue que sur la page.
Oui.
Comme un lapsus qui en dit long.
Oui, exact. Oui, parce qu'en fait, moi j'ai toujours été très intéressée par la question des lieux qui disparaissent. par le fait de la guerre ou par le fait de l'exil. Parce que quand les personnes se déplacent, quelque part, elles laissent derrière elles leur maison. Et ces maisons-là finissent par disparaître, que ce soit vrai ou imaginé. Parce que quand on quitte un endroit, en tout cas, les personnes pensent qu'elles ne reviendront jamais. Ou alors, c'est des endroits qui sont détruits par la guerre, parce que voilà, il y a eu aussi des situations pareilles. Il faut de la magie pour continuer à vivre. Il faut donner un sens magique au mot pour continuer à vivre et pour continuer à imaginer une maison à occuper, une maison qui pourrait devenir la nôtre. Donc c'est dans ce sens-là que, en tout cas, tout ça traverse mes poèmes.
Et il faut du souffle aussi. À vous entendre dire, on sent, avant chaque quatrain, l'inspiration qui est nécessaire pour vous lancer dans la lecture.
Exact.
Comme une reprise de souffle.
Une reprise de souffle, parce qu'il y a aussi, avant la reprise de souffle, il y a justement, voilà, la perte de souffle. Un peu une sorte d'apnée. Je pense vraiment que les mots sortent difficilement, même si c'est des mots parfois, enfin, en tout cas, dans le cadre de ce poème, ce sont des mots apaisés. Mais ils sortent avec un souffle qu'on récupère à chaque fois.
Et en même temps, ce moment-là du souffle retenu, qui n'est ni l'inspiration ni l'expiration, mais ce qu'il y a entre, dans la méditation, c'est très très précieux, c'est même indispensable, c'est le bon moment, ce moment-là.
Exact, c'est le moment, voilà, c'est le bon moment, et c'est aussi le moment où la poésie est possible.
Quelque part, il est question, toujours dans cette alternance de féminin-masculin dont vous jouez beaucoup, Biba Janine, de liberté consumée. Mm-hmm. Et c'est terrible, cette alliance de mots.
Ouais. Exact, parce que c'est une recherche permanente. Et l'acceptation de cette perte permet la reconstruction. C'est pour ça que quand j'utilise le poème de l'Hallaj, c'est aussi, quelque part, on finit par la calcination, mais c'est une calcination qui... C'est le fruit d'un tel parcours de connaissance de soi. C'est un tel parcours initiatique intérieur que finalement, quand la consommation ou la calcination arrive, elle est la bienvenue.
C'est comme une purification.
Tout à fait. C'est que c'est en même temps une purification, en même temps une rencontre avec soi. C'est important, et avec l'autre, parce que c'est ça qui est aussi en jeu tout le temps dans mon recueil de poésie.
Dans Nos, Camus parlait des villes comme d'une histoire d'amour. Vous évoquez Alger la Belle comme une amante vieillie. Est-ce que c'est aussi l'idée que vous auriez de la poésie qu'il faudrait réenfiévrer ?
Sûrement. D'un côté, oui, j'aime bien cette formulation. Mais d'un autre côté, la ville, pour moi, un espace très poétique, est un espace où il est possible non seulement de faire une rencontre, mais en tout cas d'intégrer tous les éléments de la ville dans une écriture poétique et aussi dans un souffle qui permet aussi de la vivre avec moins de violence. Mais aussi avec toujours un doute très fort où l'impossible peut survenir à tout moment. C'est-à-dire il y a toujours justement cette dualité entre le possible et l'impossible.
À quoi ressemble-t-il ce pays-là de l'Algérie aujourd'hui ?
Alors il ressemble à... L'Algérie est un pays où il y a une douleur à ciel ouvert. C'est un pays, pour moi, qui vit une situation post-traumatique avec toutes les 10 années... qui est les 10 années de guerre civile qu'il y a eu, mais aussi cette continuité, cette impunité qui continue à exister, donc à subsister dans ce pays. Mais je trouve que c'est un pays d'une très grande force. Et on a l'impression qu'en avançant dans le temps, que l'oubli pourrait s'installer, et bien c'est le contraire. Plus on avance dans le temps, plus la mémoire nous interpelle. C'est-à-dire, il y a une sorte de cri de cette terre pour qu'une mémoire puisse exister et rester. Il y a quelque chose, on a besoin d'une manière très forte de faire un récit de tout ce qui nous est arrivé, comme une sorte d'espace de partage entre nous, c'est-à-dire pour continuer à s'aimer, continuer à se regarder en face, continuer à construire du possible. Pour moi, il ressemble à ça aujourd'hui.
Et physiquement, géographiquement, sensuellement même, ce pays que vous traversez, cet Alger où vous vivez quand vous n'êtes pas nomade, Habiba Janine, c'est comment, vous qui êtes une femme de l'image, via le documentaire, via les photographies, comment nous décrire ce que vous avez sous les yeux en permanence lorsque vous n'êtes pas en France ?
Alors, ce que je peux décrire, c'est très multiple. Hein, c'est très multiple. Moi, j'aime beaucoup me déplacer, faire la route, parce que je trouve que c'est là où les Algériens sont plus... on va dire spontané, dans ce moment où on est entre deux choses, entre un moment où on se rencontre et un départ. Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort dans cette rencontre. c'est-à-dire dans les relais routiers, au moment où on tombe en panne, quand on s'arrête pour manger, quand on, etc. Donc il y a des choses qui se tissent. Et quand on est dans un espace non nomade, et il y a une sorte de chape de plomb qui redescend. Parce qu'il y a une absence d'espace public, mixte et vivant. Il y a une certaine violence qui persiste parce que nous n'avons pas encore réglé suffisamment de choses. Il y a une difficulté à vivre, ça on ne peut pas le nier. Pour échapper à tout ça, même s'il faut les prendre en charge, il faut se déplacer.
Vous écrivez à quel moment ? Sur la route ou bien une fois arrivé à bon port ?
Alors l'écriture se fait tout le temps, parce que quand on est sur la route, il y a quand même beaucoup de choses qu'on accumule en termes d'images, quand on est dans une recherche, mais aussi en termes de mots qu'on entend et de situations qui arrivent. Donc c'est un peu les deux, on écrit tout le temps en fait, parce que quand on est en préparation d'un film, en tout cas moi quand je suis en préparation d'un film, tout me parle, tout s'imbrique, il y a des choses, voilà, je regarde une situation, je me dis tiens ça c'est intéressant à utiliser dans telle séquence, etc. Et quand je suis dans une... et la poésie elle arrive autrement. L'écriture d'un film est un travail de préparation, et l'écriture de la poésie est une inspiration, c'est-à-dire que ça peut survenir à tout moment. Ça peut être sur une table d'un relais routier, ça peut être à la maison le matin, ça peut être en me réveillant la nuit, parce qu'il y a un poème qui s'est écrit dans ma tête pendant un rêve. C'est très multiple.
Et la langue, Habiba Djanine, vous avez fait le choix d'écrire en français pour ce recueil-là où il est dit « Je cultive la langue du présent ». Est-ce que la poésie kabyle ne vous a pas tenté ? Est-ce qu'il n'y avait pas un refrain ancestral comme ça dans ces chants berbères aussi qui aurait pu vous mener ?
Si, ça aurait pu se faire en kabyle, mais il y a un problème de transcription de cette langue. Avant de dire ça, peut-être c'est important d'entendre que le français, c'est ma langue aussi. C'est-à-dire que je l'ai apprise en même temps que le kabyle, parce que j'avais des parents francophones. Ma mère a fait des études à l'école française, voilà. C'est pas seulement mon cas, c'est le cas de beaucoup de familles algériennes. Nous avons appris le kabyle et le français un peu en même temps. Par contre, effectivement, j'aurais pu écrire en kabyle. Peut-être si j'avais sous les yeux, très tôt, des textes écrits en kabyle. J'aurais pu écrire en kabyle. Et comme il y a un problème de transcription, c'est beaucoup plus tard, quand j'ai grandi, que j'ai commencé à lire les poèmes transcrits par Mouloud Mamri, par Feraoun, j'ai lu les textes traduits de Simhan Doumhand, etc., etc. C'est plus tard. Mais à l'âge de quand on est adolescent, quand on a 13-14 ans, ce qu'on a sous les yeux, c'est les livres imprimés. Donc ça va être plutôt Rimbaud, plutôt Kateb Yassine, plutôt voilà Mohamed Dib, plutôt des poètes algériens ou étrangers qu'on peut avoir dans son sac pour lire tout le temps, à tout moment. Du coup, c'est plutôt ça qui m'a guidé dans l'écriture. Donc c'est cette écriture, le fait que ça soit imprimé nous permet aussi de développer des capacités, des techniques. Les mots se composent dans nos têtes de cette manière. Donc, en tout cas, ça aide à composer des poèmes, ça aide à imaginer qu'on peut écrire, même si l'écriture vient aussi d'une sensation, d'une pulsion poétique qui dépasse même l'écriture, parce que la poésie peut être aussi juste une situation d'échange. Elle peut ne pas se traduire en poème écrit, elle peut se traduire en... voilà, en un regard, en un voyage, en un sourire, en des choses peut-être plus impalpables. La fumée de la cigarette consume-t-elle ses rêves ? La terre a-t-elle bougé dans la nuit ? La terre tremble-t-elle pour respirer ou juste pour libérer son grondement, son cri de douleur ? Le pire est-il de voir une plaque se séparer de la terre ou bien de voir la terre se délester de toutes ses plaques? L'intérêt est de vérifier si le monde s'insinue en nous librement et d'entrevoir tous les chemins. Les oiseaux se sont-ils cachés en entendant le grondement? Les voisins sont sortis, consumés leur peur. Lits désertés après le grondement, la terre a bougé encore. Les corps et les esprits attendent, la terre a bougé au fond de chacun. Le temps tellurique s'appesantit. L'inquiétude se prolonge, la nuit est courte mais silencieuse. Elle est longue mais pas reposante.
France Culture, ça rime à quoi ? Sophie Nolot.
Une fois le recueil fini, Habiba Djanine, est-ce que ces mots vous aident à répondre à quelques-unes de ces questions qui sont tout du long ? C'est plein de points d'interrogation, ce recueil-là, ouais. Fragment de la maison.
Exact. Parce que je trouve que poser des questions, ça aide aussi à répondre. dans la façon de formuler la question, il y a déjà une réponse. Donc, je ne cherche pas des réponses définitives, je cherche à continuer à poser des questions.
La peur, la colère, l'indignation sont des mots qui reviennent souvent. Dans la manière que vous avez d'agencer les poèmes, vous réfléchissez à comment alterner les choses, ou bien c'est comme ce séisme qui tout d'un coup arrive comme un grondement et ça arrive en catastrophe.
Oui, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Alors ces mots qui reviennent sont une quête, effectivement, pour comprendre. Parce que je suis dans ma façon de voir, en tout cas de vivre et de voir ce qui s'est passé en Algérie et ce que nous avons vécu tous de manière, d'une façon ou d'une autre, c'est que, à différents degrés d'ailleurs, de violence, je reste persuadée que ce qui va disparaître, ce qui va être touché en premier dans une guerre, c'est d'abord le corps détruit, malmené, blessé, etc. Ensuite, quand les corps se détruisent, pour moi, il y a cette question de disparition de l'amour. Parce que quand il se passe des choses graves, quand il se passe des choses de l'ordre du choc et qu'on n'arrive plus à exprimer, à dire, ou alors quand on le dit, c'est inaudible, parce que justement, il y a cette disparition de l'amour. L'amour permet de se regarder en face, de parler avec son voisin, d'avoir des relations saines avec ses enfants, ses amis, ses parents, son mari, son compagnon, son amant, etc., etc. Cette disparition de l'amour fait que des choses peuvent survenir, rejaillir et jaillir, et c'est souvent la peur, la colère, toutes ces choses justement qui vont venir peut-être nous habiter d'une façon parfois un peu dure et cruelle. Ce qui va rester à la fin de tout ça, c'est une peur de tout. C'est une peur de tout ce qui nous entoure. Quand des personnes veulent imposer une façon de penser, veulent imposer un diktat, ils terrorisent. Et c'est, leur but, c'est de faire peur. Leur but, c'est de provoquer cette tétanie qui est une sorte de résultat de la peur.
C'est pour cela que vous enregistrez tout, pour que les mots perdurent ?
Pour que les mots perdurent, pour qu'on puisse se réécouter, refaire le chemin, les chemins, et bien penser... ce qui nous arrive, voilà.
L'infime poésie qui explose comme le plus terrible des volcans, c'est à la dernière page. Mm-hmm. Pour vous, la poésie, Habiba Djanine, c'est un séisme bel et bien réel?
C'est un doux séisme.
Ça dépend des jours?
Oui, ça dépend des jours. Oui, mais c'est un séisme, quand la poésie jaillit, c'est comme un apaisement, parce que la poésie n'est pas quelque chose d'évident, c'est-à-dire que, à la limite, voilà, quand on fait des films, c'est une sorte de fabrique. Il y a de l'artisanat dedans, il y a une notion d'artisanat. C'est-à-dire, on va se débrouiller de l'argile et on commence à fabriquer. L'argile, on sait où le trouver, voilà, une cassette aussi, on sait où la trouver, on l'achète. Par contre, les mots, on ne sait pas toujours où les trouver. On ne sait pas toujours comment on peut les trouver et comment on peut les agencer. Donc, quand cette possibilité survient, de manière très souvent même, tout le temps, elle vient à nous, c'est pas à nous qui la cherchons. Quel bonheur. Et puis c'est un bonheur, c'est un apaisement. Parfois, certains poèmes, quand ils sortent, quand ils viennent à nous, au départ, ce n'est pas apaisé parce qu'ils disent des choses terribles. Mais plus tard, on est bien content qu'ils aient pu exister.
Comment on se réconcilie ou pas avec les mots? Comment les mots peuvent faire le poids quand on a tué votre sœur, quand on a un pays ravagé? Enfin, comment la balance se fait-elle dans ces moments-là?
Alors moi, j'ai très vite, quand ma sœur a été assassinée, il y a eu le temps, bien sûr, du choc, le temps de la prise de parole, parce qu'il fallait quand même... On était dans une dynamique militante, donc il fallait en tout cas prendre la parole par rapport à ce qui s'est passé. Mais c'était pour moi insuffisant. Donc il fallait continuer à travailler pour trouver non seulement les mots justes, mais en plus de ça, construire un véritable propos autour de ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire un propos de l'intérieur. Comme des mots que les autres attendent de nous, ou de moi, ou des autres, ceux qui ont pris la parole, mais comme un travail, un chemin qu'on fait à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir exprimer, en tout cas on essaye de l'exprimer, j'essaie de l'exprimer, de manière la plus juste possible et qui correspond justement à non seulement ce que j'ai traversé, et ce que ma famille a traversé, mais aussi une fidélité, hein, des mots qui doivent être fidèles à la personne disparue qui est ma sœur. Tout ça, c'est une quête, c'est une recherche, les choses ne viennent pas comme ça. Mais les mots, quand ils viennent, quand ils s'installent, quand ils sont là, eh ben, ils nous sauvent, oui. Il nous sauve parce que moi, je pense profondément que le récit de ce qui nous est arrivé doit se faire, doit continuer à se faire pour qu'on échappe à la folie et à cette chose horrible qui est en train de peser sur nous, qui est plus que de l'amnésie, c'est une sorte de fuite. C'est de l'amnésie aussi, mais c'est aussi une sorte de fuite. Une de fuite parce que c'est trop. Parce que c'est trop, voilà. Il s'est passé trop de choses insupportables. Hier, j'ai regardé ses rides une à une. J'ai dévisagé les sillons de son âme pour dérouler le fil des ans, qui en tissait tant d'histoires sur sa peau. Hier, je me suis approchée de sa demeure, frêle et éphémère, gardant les traces de sa vie nomade, terre meuble qui se déplace avec ses pas. Hier, je me suis approchée de son oasis. Son dromadaire m'accueille larmoyant. Face à la dune, l'unique dune, il veille sur les rides de l'ermite. Il enfile ses poèmes un à un pour compter le désert. Il dit que les poèmes ne lui appartiennent pas. Les vents lui ont offert les vers et les tempêtes la mémoire pour les garder. Maintenant, c'est l'heure du thé. Le bois sec brûle, c'est le moment de se souvenir du sens des vents. Les plus belles histoires sont celles où les êtres s'aiment dans le dénuement. Et les plus cruelles sont celles où les êtres se font la guerre dans l'opulence. Hier, j'ai regardé ses rites une à une, j'ai dévisagé les sillons de son âme pour dérouler le fil des ans, qui ont tissé tant d'histoires sur sa peau.
Qui est cette anachorète ?
Alors c'est un ami qui s'appelle Messalem, qui habite dans un petit village qui s'appelle Bnaïsi, pas loin de Timimoun, à 60 kilomètres. Et régulièrement, je vais lui rendre visite. Il vit seul entre deux dunes et trois palmiers. Et il veut pas avoir de toit, il veut vivre en plein air. Et quand je vais lui rendre visite, il me raconte plein d'histoires. Moi aussi, je lui raconte quelques petites histoires, mais lui, il me raconte beaucoup plus d'histoires parce qu'il a été caravanier toute sa vie et il a décidé d'élire domicile sur cette dune. Et c'est un homme absolument magnifique. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il retient des poèmes de 40 vers, 50 vers, 60 vers, et il peut les dire. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, mais il déclame de la poésie tout le temps.
Ce poème-là aussi, Abiba Janine, est une histoire de fragments, alors pas les fragments d'une maison, mais les fragments d'un être, cette anachorète.
Oui, complètement. En fait, je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'arrive chez lui, dans son espace.
Sans toi.
Voilà, sans toi, pour lui rendre visite. Et il me raconte une histoire absolument fabuleuse, et parce que je ne trouve pas son dromadaire.
Celui qui a la larme à l'œil.
Exact. Je lui dis, mais il est où, le dromadaire? Il est parti, je ne comprenais pas. Et il me dit, on a passé toute la nuit à se parler. Il a passé toute la nuit à parler à son dromadaire. Le matin à l'aube, ils allaient se quitter. Il m'a dit, on s'est quitté en très bons termes parce que je voulais que mon dromadaire puisse mourir dans le désert, dans le grand désert, c'est-à-dire au cœur de l'arc occidental, et qu'il ne meure pas ici sous mes yeux. Du coup, une caravane était passée par là et il a négocié pour qu'ils le prennent avec eux. Il a utilisé ces mots, mon dromadaire est parti mourir avec un très grand bonheur parce qu'on s'est séparés dans de bons termes. Et je trouve cette histoire absolument magnifique.
Fragments de la maison d'Abiba Janine est publié aux éditions Bruno Doucet. Sarima Kwa, 24 heures sur 24 sur franceculture.fr. Pour écouter durant 1000 jours et nuits et télécharger librement le temps d'une année entière. Sarima Kwa, Jean-Michel Bernot, Claude Niort, Henri Leblanc, Patrick Molinier, Sophie Nolo. Changement de décor dès 20h30 sur France Culture, place au théâtre avec Joël Gaillot.